Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 37, on va analyser ensemble les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir le récap des news de la franchise depuis avril 2026. Et il y a deux grosses actus en France en ce moment, puisque le jeu vidéo Battlestar Galactica Scattered Hopes, développé en France, est sorti le 11 mai dernier, je vais en parler. Et je vous dirai quelques mots sur sa réception dans le monde entier. Mais aussi, la série est de retour en streaming en France, plus plein d'autres petites infos parfois assez surprenantes sur et autour de la franchise. On est mi-juillet 2026, décollage. Le 12 avril, un groupe de metalcore nommé Leviathan Wakes a sorti sur YouTube un morceau nommé Lords of Cobol, les seigneurs de Cobol. C'est apparemment un petit groupe originaire de Floride et la vidéo n'a qu'un peu plus de 130 vues. Les paroles qu'on peut lire sous la vidéo sont effectivement très inspirées de ce qu'on peut voir dans la série réimaginée avec quelques phrases cultes citées ici et là. Donc, si vous appréciez le metalcore, ce qui n'est pas forcément mon cas, hein. Même si je suis fan de métal, ça ne veut pas dire que j'aime tous les genres ou les sous-genres du métal. Mais bref, si vous êtes curieux, jetez-y une oreille parce que j'ai quand même trouvé ça très bien exécuté. Le 21 avril, le site Slash Film établissait un top 10 des pires fins de séries télé. Un top dans lequel figure donc Battlestar Galactica, selon eux, mais plutôt en début ou en fin de top. Allez, je vous donne ce top. Numéro 10 des fins les plus foirées de toute l'histoire des séries télé. La petite maison dans la prairie. Oui, alors, j'ai découvert d'ailleurs comment se finissait la petite maison dans la prairie avec cet article. J'ai été assez surpris. Après, est-ce que c'est raté ou pas? Ok, bon, enfin bref. Numéro 9, Battlestar Galactica. Ah, on n'est pas en haut du top. Alors, d'après eux, la fin de Battlestar n'a aucun sens et semble très forcée. Ça m'aide un petit peu à comprendre ce que les gens reprochent à cette fin que personnellement, j'adore. Mais bref, voilà, au moins, elle n'est pas en haut du top. Bon, et puis le reste du top, c'est quoi? Numéro 8, Seinfeld. J'ai pas vu la fin, mais j'adorais cette série il y a longtemps. Numéro 7, Game of Thrones. Ça, je suis bien d'accord. Ils ont bien foiré la fin. Numéro 6, Code Quantum. Alors là, je suis pas d'accord. La fin de Code Quantum n'est clairement pas celle qu'on voulait. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est un ratage pour autant? Je suis pas d'accord. Numéro 5, Dallas. J'étais pas assez, grand à l'époque pour voir la fin de Dallas. Numéro 4, Roseanne. Pareil, j'ai vu quelques épisodes sur M6 quand j'étais gamin, mais voilà. Numéro 3, Star Trek Enterprise. Je suis passé à côté. Numéro 2, là, je suis complètement d'accord. How I Met Your Mother. Cette fin de série était une arnaque complète. De toute façon, les dernières saisons étaient pénibles et la fin était pire. Et numéro 1 de leur top à eux, Dexter. Ça a été annoncé mi-avril, Hallmark, la célèbre entreprise américaine spécialisée dans les cartes de vœux et les décorations de Noël, va sortir un petit chasseur Viper version 1978 en décoration de Noël que vous pourrez accrocher à votre sapin. Je sais pas si vous en souvenez, hein, ils avaient déjà sorti un Galactica il y a quelques années et ils proposent pas mal de petits vaisseaux issus de divers univers de science-fiction, notamment de Star Trek, donc c'est quelque chose de courant pour eux. Cette petite déco de Noël, donc le Viper, hein, coûtera $30 et elle sera en vente à partir du 10 octobre 2026 sur leur site web américain qui ne livre pas dans le reste du monde si ma mémoire est bonne. Et on continue avec les produits dérivés puisque fin avril, Factory Entertainment a dévoilé ses casques Battlestar Galactica qui sont désormais en commande sur leur site et pas en précommande, hein, ce qui signifie que vous n'aurez pas à attendre pour les réceptionner. Je vous ai longuement parlé de leurs nouvelles figurines tirées de la série originale la dernière fois et ce sont donc maintenant des casques, mais des grands, hein, des gros casques tirés de la série de 78 qu'ils nous proposent. Alors il y a bien évidemment le casque de Centurion Cylon avec la lumière rouge, hein, qui va de gauche à droite, ainsi que le son des Cylons et une voix qui dit qu'on peut activer avec une télécommande. Ils précisent qu'ils ont scanné en 3D un casque de la série originale et qu'ils ont effectué quelques mises à jour discrètes pour être raccord avec les technologies actuelles. Alors par exemple, les ampoules d'origine, évidemment, sont maintenant remplacées par des LED. Les trous pour les yeux des acteurs de l'époque, bah, ils ont été supprimés. Le plastique d'origine a été remplacé par de la fibre de verre. Et les batteries pour la lumière du casque, bah, maintenant, elle est à l'intérieur du casque, ce qui n'était pas le cas à la fin des années 70. Mais ils ont aussi fait très attention à rester cohérents avec ce qu'on pouvait voir à l'écran, car les vrais casques utilisés pour les tournages n'étaient pas forcément aussi bien finis que ce qu'on pourrait croire, vu que la série était filmée en basse résolution à l'époque. Je précise que le casque n'est pas fait pour être porté, hein, il est sur un support. Enfin, tous leurs casques, d'ailleurs, hein, sont pas faits pour être portés. Ils sont vendus sur des petits supports. Là, celui-là, le casque de Cylon, il pèse 2,6 kg, il mesure environ 30 cm de haut, et sa production est limitée à 300 pièces. Le tarif, il est un peu élevé, c'est 900 $. Ouais. Alors dans le même esprit, il y a un casque de pilote de Viper, donc toujours de la série de 78, hein, qui est limité à 200 pièces et qui est vendu au tarif de 800 $. Le descriptif précise qu'en 1978, seuls deux casques fonctionnels avec les lumières avaient été construits pour le tournage de la série. Et ils étaient très fragiles et ils chauffaient très facilement, ce qui n'est pas le cas de cette réplique, dont les lumières sont des LED qui imitent parfaitement les systèmes lumineux de l'époque. Il y a un troisième casque qui est proposé à la vente, qui est une version blanche du casque de pilote de Viper qu'on avait pu voir porté par Starbuck dans l'épisode La Guerre des Dieux, deuxième partie. Celui-ci est limité à 100 pièces et il est vendu au tarif de 1000 $. Et tant que je parle de Factory Entertainment, ils ont aussi sorti quelque chose de beaucoup moins cher. C'est une fausse publicité imprimée pour leurs figurines de pilote de Viper et de Centurion Cylon. Ça ne coûte que 25 $ et ça ressemble effectivement beaucoup à une vieille publicité des années 70. Donc c'est, alors je sais pas si c'est imprimé sur du papier ou si c'est un peu plastifié, mais ça mesure 28 cm de large sur 43 de haut. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je reviens rapidement sur les casques. Alors oui, ils sont super chers, mais honnêtement, c'est une occasion unique d'avoir ces très très belles pièces de collection, et je trouve qu'ils ont raison de limiter ça à quelques centaines de pièces pour pas prendre de trop gros risques commerciaux. Le jeu vidéo Battlestar Galactica Scattered Hopes, développé en France par Alt Shift et édité par Dotemu, est sorti le 11 mai. Et même si je l'ai acheté, je dois vous avouer que j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Mais j'avais joué à la démo dont je vous avais beaucoup parlé la dernière fois. Donc je vais pas vous réexpliquer toutes les mécaniques de jeu, hein, que je vous avais déjà détaillées. Mais je vais juste vous redire que ce jeu est le meilleur moyen de vivre ce qu'ont vécu les dirigeants de la flotte dans le tout premier épisode, 33 minutes. Et d'une manière plus générale tout au long de la série, avec des choix difficiles à faire et une tension permanente pour échapper à la menace des Cylons. J'en profite aussi pour repréciser que c'est un jeu qui s'adresse à tout le monde, car il n'y a absolument pas besoin d'être doué avec une manette à la main pour y jouer. Au contraire, il suffit juste d'une souris et vous aurez tout le temps que vous voulez pour faire vos choix pendant la partie, même si les choix, eux, ne seront pas faciles à faire, aussi bien dans la gestion globale de la flotte que dans les phases de combat où vous devez vous défendre pendant que l'ordinateur calcule les coordonnées du bon PRL. Mais en fait, pendant les phases de combat, le combat se met sur pause le temps que vous fassiez vos choix. Donc vraiment, il vous faut juste des yeux, on va dire, pour lire ce qui est affiché à l'écran, et une souris pour cliquer, pour valider vos choix. C'est tout. C'est vraiment un jeu qui peut s'adresser à tout le monde. Et ce dont je voulais surtout vous parler aujourd'hui, c'est de la réception du jeu, et elle est globalement très bonne. La presse française en a pas mal parlé, et c'est une bonne chose, hein, puisque le projet est né en France. Mais je me suis intéressé à ce qui a été dit à l'international également, parce que c'est une franchise globale, après tout, Battlestar Galactica. Et par exemple, j'ai lu le test du célèbre site américain IGN, qui accorde un beau 8 sur 10 au jeu. D'ailleurs, sur Metacritic, alors Metacritic, je sais pas si vous connaissez, hein, c'est un agrégateur de notes des principaux médias de jeux vidéo dans le monde. Et ben, sur Metacritic, la moyenne est de 77 sur 100, ce qui est vraiment une bonne note. Et d'ailleurs, la note des joueurs sur ce même site, elle est de 9,1 sur 10 en moyenne. C'est quand même vraiment très bon, quoi. Alors, je finirai cette revue de presse très rapide en citant l'introduction du test du jeu sur le site français Gamekult, qui, selon moi, résume parfaitement le sentiment général, en seulement deux phrases, mais le sentiment général par rapport à ce jeu. Alors, ouvrez les guillemets. Je n'ai jamais vu un seul épisode de Battlestar Galactica de ma vie, et pourtant j'ai été happé par Scattered Hopes, malgré la brutalité constante et la fatigue mentale qu'il fait subir à ses joueurs, ainsi que sa terrible difficulté totalement assumée. Au moins, on ne pourra pas dire qu'il porte mal son sous-titre, tant il nous laisse peu d'espoir de réussite. Fermez les guillemets. Waouh! Moi, je trouve ça super cool, quoi. Et je précise une dernière chose qui ressort dans pas mal de critiques. Le jeu est super addictif parce que, avec son système roguelite, on a constamment envie d'y revenir avec des nouveaux atouts gagnés au fil des parties. Et franchement, ça, c'est l'un des plus beaux compliments qu'on puisse faire à un jeu, surtout à l'époque actuelle où l'attention est sans cesse captée par toutes les nouveautés qui sortent en permanence. Et je finirai en disant que c'est pas parce que le jeu est sorti le 11 mai que le travail s'est arrêté du côté des développeurs français, hein, puisqu'ils ont sorti plusieurs mises à jour pour continuer d'améliorer l'expérience de jeu. Donc un grand bravo à toute l'équipe qui travaille dessus. Et si vous hésitez encore à acheter le jeu, sachez qu'il a été déjà deux fois en promo depuis sa sortie. Mais honnêtement, son prix initial de 25€, il est loin d'être prohibitif. Et il mérite largement d'être acheté sur Steam, rien que pour soutenir la franchise et ceux qui ont travaillé sur ce jeu. Début mai, le compositeur et musicien Bear McCreary, qui avait signé la bande originale du reboot de Battlestar Galactica, a annoncé de nouvelles dates de tournée pour l'été 2026 en Europe. Mais contrairement à 2025, il n'y a cette fois aucune date en France, puisque cette fois il se concentre essentiellement sur le Royaume-Uni, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande entre le 25 juillet et le 7 août. Puis il repartira aux États-Unis pour une dizaine de dates début septembre. Et si vous aviez apprécié son premier concept album The Singularity, sachez qu'il a annoncé un second concept album nommé The Singularity Eclipsis qui sortira le 31 juillet 2026. Plusieurs morceaux sont déjà disponibles à l'écoute et comme sur le premier album, il y a des invités de prestige comme par exemple un membre du groupe français Gojira, plusieurs membres des Guns N' Roses, un membre de The Police et un autre des Red Hot Chili Peppers. Moi, j'ai vraiment hâte d'écouter le truc en entier. Et voilà une news inattendue. L'actrice Trisha Helfer, hein, qui interprétait numéro 6 dans Battlestar Galactica, a rejoint la plateforme OnlyFans fin mai. Non, ne faites pas semblant de pas savoir ce que c'est OnlyFans. Non, vraiment ? Bon. Ok, admettons que vous ne connaissez pas la plateforme qui a révolutionné l'industrie du porno ces dernières années. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est en quelques mots, comme ça vous pourrez faire semblant de l'avoir appris par moi, ok ? Alors, OnlyFans, c'est un réseau social par abonnement. Donc, pour y suivre quelqu'un et voir ses textes écrits, mais surtout ses photos et vidéos, ainsi qu'une messagerie écrite directe, vous devez payer un abonnement mensuel dont le tarif peut être très variable en fonction de la personne que vous voulez suivre. La plateforme a été créée à l'origine en 2016 pour mettre en relation directe les artistes avec leurs fans, afin que les sommes payées leur soient reversées à 80% au lieu d'être largement ponctionnées par des intermédiaires comme par exemple des maisons de disques. Okay ? Sauf que ce que même les créateurs de la plateforme n'avaient pas prévu, c'est que leur idée a explosé grâce au contenu pornographique posté par d'innombrables jeunes femmes. Alors, il y a aussi des jeunes hommes, mais vraiment, franchement, beaucoup, beaucoup moins, ok ? Et donc, tous ces gens contrôlent comme ça beaucoup mieux la diffusion de leurs images, puisque les vidéos sont visibles directement dans la plateforme, elles ne sont pas hébergées ailleurs. Et elles peuvent comme ça s'assurer des revenus confortables grâce aux abonnements mensuels, mais il y a aussi des pourboires ponctuels et des paiements supplémentaires qui sont possibles pour pouvoir accéder à certains contenus exclusifs. Et pour vous donner une idée de l'énorme popularité de cette plateforme, j'ai envie de vous dire qu'il y a probablement dans votre entourage quelqu'un qui y gagne de l'argent sans que vous le sachiez. Non, vraiment, je veux pas vous affoler, hein, parce que, attention, c'est pas forcément quelqu'un qui poste du contenu sur la plateforme. Parce qu'il y a aussi un nouveau métier qui a émergé ces dernières années avec OnlyFans, c'est celui d'agent OnlyFans. En fait, les créatrices de contenu qui sont sur la plateforme n'ont souvent pas le temps de répondre à tous les messages de leurs nombreux fans. Et donc, elles engagent d'autres personnes pour le faire à leur place. Alors, ce que ça signifie concrètement, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui envoient en message privé des photos d'eux-mêmes, on va dire en état de forte excitation, à leurs créatrices préférées sur OnlyFans. Mais ces photos, en fait, bien souvent, sont vues par d'autres hommes qui leur répondent en se faisant passer pour la créatrice de contenu qui est propriétaire du compte. Et donc, c'est leur boulot hein, de faire ça, et ils font ça en échange d'une petite partie des sommes gagnées. Donc voilà, que ce soit en tant que créateur ou agent, il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes qui gagnent de l'argent et qui ont des compléments de revenus grâce à OnlyFans. Je dis pas ça pour vous affoler, mais croyez-moi, tous les jeunes dans vos entourages savent très très bien ce que c'est que OnlyFans. Bref, c'était pas le sujet, c'était juste pour vous expliquer ce que c'est OnlyFans. Donc, cette plateforme, elle a explosé pendant la crise sanitaire de 2020. Elle compte aujourd'hui plus de 4 millions de créateurs de contenu et 377 millions d'utilisateurs dans le monde. Mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que j'ai jamais dit que Trisha Helfer se lançait sur OnlyFans pour y proposer du contenu pornographique. En effet, si le porno est largement majoritaire sur la plateforme, on y trouve aussi toutes sortes d'artistes qui y voient un moyen plus apaisé que les réseaux sociaux traditionnels de dialoguer avec leurs fans tout en s'assurant des compléments de revenus. L'actrice, donc Trisha Helfer, aujourd'hui âgée de 52 ans, comme se sentent visiblement obligés de le préciser tous les articles qui en ont parlé, et qui est divorcée d'ailleurs depuis 2017, elle se sent aujourd'hui libre de faire ce qui lui chante. Et donc elle a ouvert son compte sans aucune pression extérieure, et elle se sent libre de le fermer quand elle le souhaite. Elle y propose des photos d'elle, souvent prises par des photographes professionnels, où elle apparaît parfois, mais pas toujours, partiellement dénudée, mais elle propose aussi des petits messages personnalisés à ceux qui payent pour en avoir, bien sûr, ainsi que des petits messages réguliers montrant sa vie quotidienne ou ses pensées du jour. Donc là, c'est des trucs vraiment complètement quelconques, de la vie de tous les jours, quoi. Elle précise qu'elle les poste uniquement ce qu'elle a envie de poster, qu'elle est très heureuse de l'accueil que les fans lui ont fait sur la plateforme. Elle apprécie le contrôle total que lui offre la plateforme sur son contenu et elle avoue qu'elle aime choquer un petit peu et explorer son côté aguicheur. Pour vous abonner au contenu OnlyFans de Trisha Helfer, dont les liens sont évidemment dans les notes de l'émission, comme toujours, ça vous coûtera $15 par mois. Mais il y a aussi des packs de 3 ou 6 mois qui offrent une petite réduction. Et si on ne paye pas, on ne voit rien du tout. En fait, on peut juste voir que son compte existe, mais on peut voir absolument rien d'autre. Et pour vous donner une idée de contenu supplémentaire que vous pouvez y trouver, il existe la possibilité de rejoindre un canal exclusivement dédié aux photos de ses pieds. Et là, ça coûte $200 pour 6 mois. Est-il besoin de présenter Yvan West-Laurence, fondateur et ancien rédacteur en chef du magazine Animeland, ex-contributeur du magazine 10e Planète, dont je possède le numéro spécial Battlestar Galactica, conférencier, modérateur de conférences et animateur de projections de cinéma, spécialisé dans les films de Japanimation et tout particulièrement le studio Ghibli, et accessoirement grand fan de maquettes qu'il partage régulièrement sur sa chaîne YouTube. Et justement, il m'a fait très plaisir avec l'une de ses dernières vidéos YouTube. Je vous en avais parlé il y a longtemps, mais à l'époque où Eagle Moss sortait encore des vaisseaux spatiaux miniatures de Battlestar Galactica, ils avaient édité deux livres consacrés aux vaisseaux de Battlestar Galactica. L'un d'eux était Battlestar Galactica Shipyards, dont je vous avais parlé il y a très longtemps et qui contient des fiches détaillées sur tous les vaisseaux des différentes séries de la franchise. Puis en 2021, ils avaient sorti un second livre nommé Designing Spaceships, qui se concentrait cette fois sur les croquis et les coulisses de la création de tous ces vaisseaux. J'ai pas encore acheté ce second livre parce que les frais de port depuis le Royaume-Uni sont souvent prohibitifs, sans parler de la taxe douanière qu'il faut payer en plus, ce qui fait que le prix total du livre est souvent doublé par rapport à ce qu'il vaut vraiment, et ça me pose un problème. Bref, j'attends de le trouver pas cher. Mais grâce à Yvan West-Laurence, je sais enfin ce que contient ce livre parce que le 21 juin, il a publié une vidéo d'une demi-heure qui détaille tout le contenu du livre, page par page, avec ses commentaires très intéressants, comme il l'avait déjà fait pour le livre précédent en décembre 2020. Et je le remercie parce que je peux voir que le contenu de ce livre est assez riche, avec plein de croquis que je ne connaissais pas, certains, surtout en ce qui concerne la série réimaginée. Pour le Galactica et le Viper, j'en avais déjà vu plein, mais pour, par exemple, le Colonial One de la Présidente, par contre, là, j'en ai découvert vraiment pas mal dans la vidéo, donc faudra vraiment que je m'achète ce livre un jour si je le trouve à un prix correct. Le 28 juin, Adam Leibovitz, qui était l'un des responsables des effets spéciaux sur la série réimaginée ainsi que sur le téléfilm Razor, il a partagé sur son compte Facebook une version inédite de l'introduction du téléfilm Razor, justement. Et ce qui est notable dans cette version, c'est surtout la musique. Il explique que ce n'était pas lui qui s'était occupé de cette intro à l'époque, mais il ne l'avait jamais publiée parce qu'il pensait qu'elle ne pourrait pas rester en ligne à cause de problèmes de droits sur la musique qu'elle contient. Parce que cette intro, en fait, c'est une référence directe au film Apocalypse Now. On peut y entendre « The End » des Doors. Oui, tu sais, « This is the end », tu vois, avec donc des images au ralenti d'une grosse fusillade entre les coloniaux et les Cylons, et puis aussi la voix off du personnage de Ken Drashaw, hein, qui est le personnage principal de ce film, Razor. Voilà. Alors, c'est une vraie curiosité à regarder. Il dit aussi que la chaîne a sûrement mis son veto à l'époque hein, sur l'utilisation de cette chanson, autant pour ce que ça aurait pu coûter en termes de droits d'auteur, bien sûr, mais peut-être aussi pour l'ambiance qui était probablement un peu trop morose par rapport aux attentes du network. Donc voilà, bon, je suis d'accord sur l'ambiance, c'est un peu bizarre, mais surtout au-delà de l'hommage à Apocalypse Now, je trouve que ça aurait été bizarre d'entendre une chanson qui existe vraiment chez nous dans l'univers de la série. Le saviez-vous, la chaîne Sci-Fi, qui s'appelait autrefois Sci-Fi, a changé de nom et s'appelle aujourd'hui Sci-Fi, en tout cas en France, parce qu'aux États-Unis, elle s'appelle toujours Sci-Fi. Vous n'avez rien compris, c'est normal, la différence ne se voit qu'à l'écrit. Je vous la refais en plus clair. Créée en 1992 aux États-Unis, la chaîne Sci-Fi s'écrivait autrefois en deux mots, SCI, plus loin FI, qui est évidemment une abréviation du terme science-fiction. Elle garde cette appellation jusqu'en 2009, donc pendant toute la période où elle diffusait Battlestar Galactica. Et sous ce nom d'origine, elle débarque en France en 2005. Puis en 2009, donc aux États-Unis, elle devient Sci-Fi, cette fois qui s'écrit en un mot S-Y-F-Y. Et ce changement est également acté en France un peu plus tard, en 2010. De 2017 à 2022 en France, la chaîne Sci-Fi est une exclusivité numéricable, puis SFR, puis après 2022, elle devient également disponible chez Bouygues Télécom et elle est maintenant disponible sur plusieurs services dont Prime Video en package avec Universal+. Mais le 17 mars dernier, Sci-Fi France a encore changé d'identité et est devenue Sci-Fi, en un seul mot donc, mais écrit S-C-I. FI, donc presque comme au début, mais sans l'espace au milieu, et en plus avec une toute nouvelle identité visuelle. Par contre, aux États-Unis, rien n'a changé, donc je sais pas trop, je comprends pas grand-chose, je sais pas si les deux chaînes sont encore liées, par contre les deux font toujours partie du groupe Universal, ça c'est sûr. Bref. Tout ça pour dire qu'apparemment, depuis la mi-juin, le reboot de Battlestar Galactica est diffusé du lundi au vendredi à 19h15 sur cette nouvelle chaîne Sci-Fi en France. Et elle est disponible en parallèle sur la plateforme Universal+. J'avais vu passer une publication Facebook que j'avais relayée à ce sujet, mais je remercie également Jérémy de me l'avoir signalé directement par email. J'ai même vu sur le net que la mini-série a été diffusée d'une traite, donc 3h10 de programme, sur cette nouvelle chaîne Sci-Fi le 3 juillet à 22h45. Et le téléfilm The Plan a été diffusé le lendemain au même horaire. Et en plus, il s'agissait visiblement de rediffusion, puisqu'il y a eu plusieurs diffusions. Et je sais pas, il y a peut-être eu Razor également, mais j'ai pas trouvé l'info. Et donc, a priori, si je dis pas de bêtises, je vous avoue, j'ai pas été vérifié parce que je suis pas abonné à Universal Plus et ça me fait pas spécialement rêver, mais je sais pas si donc ces téléfilms sont également disponibles sur Universal Plus. Bon, bref, dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle dans l'ensemble et comme d'habitude, j'espère que ça permettra à un nouveau public de découvrir la série. Tiens d'ailleurs, pour info, depuis quelques mois, la série est également de retour en streaming aux États-Unis, oui, parce qu'elle n'était plus du tout dispo là-bas depuis quelques temps. Elle est également donc en streaming aux États-Unis sur Universal Plus également. Le 10 juin, le site français de Télérama publiait un classement des 50 meilleures séries télé de tous les temps, établi selon les votes des lecteurs, avec apparemment plus de 3000 votes en tout. Alors, l'article est payant, mais j'ai pu y accéder, et voici les résultats. Alors, les 5 premiers, hein, du top des 5 meilleures, les meilleures séries de tous les temps, les 50 meilleures séries de tous les temps. Donc, les 5 premiers. Numéro 1, Oui, d'habitude, je commence dans l'autre sens. Mais numéro 1, The Wire. Numéro 2, Six Feet Under. Numéro 3, Le Bureau des Légendes. Numéro 4, Les Sopranos. Numéro 5, Game of Thrones. Ok. Et les places suivantes, alors, jusqu'au numéro 15, qu'est-ce qu'on a ? On a Breaking Bad, Twin Peaks, Mad Men, Succession, The Office, Friends, The Leftovers, Better Call Saul, Tchernobyl et Engrenage. Bon, ok, pas mal, oui, tout ça, a priori, ce sont de bonnes séries, mais où est la science-fiction, hein ? Montrez-moi un petit peu de science-fiction. Voyons si j'en trouve un peu plus loin. Ah oui, là, il y a Lost, à la 16e place. Lost, c'est de la science-fiction, Lost ? Pas sûr. Bon, je vais un peu plus loin. Black Mirror à la 21e place. Ça, c'est cool. Ça me fait plaisir. J'adore Black Mirror. Je suis très, très, très fan de Black Mirror. Severance, qui est 28e ex aequo avec The West Wing. Pas mal, pas mal, pas mal. J'aime bien Severance, mais ce qui me gêne, c'est que la série n'est pas encore terminée. Donc, bon, de là à le mettre dans le top, moi, ça me gêne un peu. Bref. C'est vrai que la saison 1 était géniale. La saison 2, un peu plus mitigée. Quoi d'autre ? Battlestar Galactica à la 34e place. Voilà, merci. Oui, oui, en France. Juste derrière The Crown, Downton Abbey et Kaamelott. Oui, je le répète, Battlestar Galactica est 34e du classement des 50 séries préférées des lecteurs de Télérama. Juste derrière Kaamelott, qui est 33e. Si j'avais pensé voir ça un jour, franchement... On me l'aurait dit, j'aurais pas cru. Bon, dans les 15 dernières places, est-ce qu'il y a encore de la science-fiction ? Enfin, dans les 15... Oui, dans les 15 dernières, oui, puisque j'ai commencé par le début. Alors, on a la série allemande Dark, effectivement, qui était très bien, qui est 38e. On a Star Trek, qui est 40e, sans vraiment préciser quel Star Trek. Il y a La Servante Écarlate, qui est 42e. Et en 48e place, ex aequo, on trouve encore deux vieilles séries anglaises qu'on peut effectivement qualifier de science-fiction, à savoir Le Prisonnier et Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Eh, plutôt pas mal pour un classement français, non ? Hein ? Et vous avez remarqué que ni Stargate SG-1, ni The Expanse, ni Doctor Who n'y figurent ? Bon, je dis ça, je dis rien. Le 8 juillet dernier, on apprenait le décès de la chanteuse Bonnie Tyler. Mais quel est le rapport avec Battlestar Galactica ? Eh bien, ce décès a été l'occasion de découvrir une anecdote que je ne connaissais pas sur les coulisses du tournage de la série réimaginée dans les années 2000. Et cette anecdote, c'est l'acteur Aaron Douglas, l'interprète du chef Tyrol, qui l'a lui-même raconté dans une petite vidéo hommage aussi drôle que surprenante qu'il a partagée sur son compte Instagram. Cette anecdote, elle concerne une autre actrice de la série qui s'appelle Jennifer Halley. J'ai pas beaucoup parlé d'elle, mais peut-être que son personnage vous dira quelque chose parce qu'elle interprète Silix dans 22 épisodes de Battlestar Galactica. D'ailleurs, on la voit sur Kobol dans les premiers épisodes de la saison 2 dont on a parlé là dans les derniers Analytica. Hein, et son personnage prend un poil plus d'importance par la suite, même si elle devient jamais un perso majeur de la série. Hein. Mais voilà, Silix, je sais pas si ça vous parle, elle a les cheveux un peu cuivrés, bref. Donc le truc, c'est que donc Jennifer Halley, qui interprétait Silix, elle est très sensible au ver d'oreille. Alors, c'est quoi un ver d'oreille ? Vous savez, c'est quand vous avez une chanson dans la tête et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Ça peut être assez gonflant, surtout si c'est une chanson que vous n'aimez pas. Alors, perso, moi, j'ai pas trop ce problème. Alors, il m'arrive d'avoir des chansons dans la tête, hein, mais jamais au point que ça m'énerve, en fait. Mais certaines personnes y sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Notamment une certaine Karine qui co-anime les épisodes Analytica de ce podcast avec moi. Donc parfois, il suffit d'un seul mot pour lui mettre, même sans le faire exprès, hein, une chanson dans la tête. Et quand c'est une chanson qu'elle n'aime pas, elle vous maudit sur 10 générations. L'interprète du chef Tyrol, il adorait embêter Jennifer Halley avec ça. Et il savait qu'elle était particulièrement sensible à deux chansons qu'elle détestait et qu'elle mettait des heures à se sortir de la tête. Et il raconte, en se marrant hein, dans sa vidéo, qu'il arrivait juste derrière elle quand elle discutait avec d'autres gens et qu'il lui marmonnait juste les premiers mots d'une de ces deux chansons. Et elle devenait folle en lui disant « Ah non, non, merde, non, mais non, non, non !» Et l'une de ses chansons était « Bad Day » de Daniel Potter. Alors, moi, j'ai dû chercher hein, pour ce que c'était. Alors, est-ce que je vais réussir à vous chanter le refrain ? Ça donne quelque chose du genre « You had a bad day, na 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 » Un truc comme ça. Bon, ça doit probablement vous parler. Et l'autre chanson qu'elle supportait pas, parce qu'elle pouvait pas se la sortir de la tête, c'était « Total Eclipse of the Heart », le grand classique de Bonnie Tyler. Donc, pour l'une, en fait, il lui suffisait d'arriver par derrière et de dire « Had a bad day ». Et pour l'autre, il disait « Turn around ». Et c'était parti pour des heures pour que la pauvre Jennifer s'en débarrasse. Le pire, c'est qu'elle arrivait même à le faire à distance quand elle se trouvait de l'autre côté du hangar des Vipers. Il la regardait juste en faisant comme s'il voulait lui dire un truc et en mimant les mots « Turn around ». Et elle devenait folle en disant « Non, 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 mais non, non, non ». Apparemment, il lui faisait même un petit geste avec le doigt pour lui montrer, comment je pourrais expliquer ça, quelqu'un qui se tourne, qui se retourne sur lui-même, parce que « turn around », ça veut dire ça, se retourner, en fait. Voilà. Mais c'est génial. Mais alors, l'histoire racontée par Aaron Douglas, elle ne s'arrête pas là, parce que le matin où il a appris le décès de Bonnie Tyler, il a tout de suite repensé à l'interprète de Silix. Et il a eu envie de lui envoyer un SMS pour lui dire « Hé, il y a un thé vert d'oreille qui s'en est allé ». Mais il s'est aussi dit que ça faisait 20 ans qu'il ne s'était pas parlé et que ce serait un peu bizarre de lui envoyer ça. Donc voilà, finalement, il n'a pas envoyé de SMS. Il n'a rien fait, il est sorti de chez lui et il est allé se chercher un café dans une boutique du coin du quartier où il habite. Et en chemin, en allant là-bas, son téléphone sonne et il le sort, il regarde et il voit qu'il a reçu un SMS de Jennifer Halley. Donc, je rappelle, hein, ça fait 20 ans qu'ils se sont pas parlé. Et le SMS lui dit « Hey, salut, c'est Jen, je viens juste de lire que Bonnie Tyler est décédée et ce truc que tu faisais quand tu me disais juste « turn around », c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup rapprochés et j'ai plein de bons souvenirs de ça et j'espère que tu vas bien et désolé de t'avoir dérangé avec ça ». Et du coup, il est comme un couillon, en fait, dans la rue. Il bloque complètement sur ce SMS. Et ce qu'il fait, c'est qu'il répond tout de suite, en fait. Il dit « Ah bah oui, mais j'adorerais te rendre dingue avec ça ». Et après, bon bah, il conclut sa vidéo. Il rend hommage une nouvelle fois à Bonnie Tyler en disant qu'il va bientôt aller dîner avec Jennifer Halley, puisqu'il ne l'a pas revue depuis très très longtemps, et qu'il postera une photo de eux deux sur les réseaux. Voilà, moi, j'ai trouvé ça assez génial, cette petite vidéo et puis ces beaux souvenirs de tournage. Et voilà qui conclut cet épisode Cygna. Je sais que le rythme de parution du podcast est un petit peu chaotique en ce moment, hein, et depuis quelques mois. Mais si tout va bien, on va bientôt pouvoir reprendre les épisodes d'Analytica avec Karine et peut-être même d'autres formats si j'arrive à trouver un peu de temps pour ça. En attendant, le podcast Galactifrac est disponible sur PodCloud ainsi que sur Apple Podcasts, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Blue Sky, Facebook, Threads et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver personnellement sur Blue Sky ou X ou Instagram ou Threads ou TikTok, mon pseudo c'est Draven et le nom du compte c'est Draven Hardrock qui s'écrit DravenHardrock. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. À bientôt !